étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 57e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone l'auteur bressant de cœur et francilien d'adoption Bastien Gouly dans le premier roman Décadence, est paru aux éditions L'Harmattan et dans la collection Miroir du Réel le 31 octobre 2024. Bastien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous préférez le mot auteur, romancier ou écrivain lorsqu'on vous présente?
Tout me va. Auteur et écrivain, c'est très bien.
Bien. Quel était votre rapport avec la lecture et puis l'écriture lorsque vous étiez enfant puis adolescent du côté de Beaupont, par exemple?
Oui, alors moi, j'ai toujours été attiré par l'écriture. D'ailleurs, c'est pour cela que dans le journalisme, j'ai commencé dans la presse écrite au Progrès de Lyon. Et en fait, quand j'étais jeune, adolescent, j'écrivais souvent des histoires sportives. J'imaginais certaines compétitions dans lesquelles se déroulaient des matchs un peu imaginaires. Donc en fait, j'ai toujours eu un rapport très proche avec l'écriture et l'imaginaire. Et c'est peut-être assez naturellement que je me suis plongé dans l'écriture d'un roman.
Le français était forcément votre matière préférée ou vous aviez d'autres intérêts? Je pense à l'histoire-géographie, par exemple.
Alors, je ne sais pas si vous avez de très bonnes sources, mais j'étais très mauvais en français jusqu'au lycée, parce qu'en fait, je débordais de créativité et je n'arrivais pas à mettre des mots sur cette créativité. Ça partait un peu dans tous les sens. Heureusement, j'ai eu de formidables professeurs, notamment au lycée Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse. Et évidemment, quand on aime le journalisme et quand on aime écrire un roman, on apprécie aussi l'histoire-géographie. Vous avez totalement ciblé l'une de mes passions. L'histoire fait partie des matières préférées.
Vous avez fait des études de journaliste. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser cette carrière?
Le journalisme, pour moi, c'est être curieux. J'étais curieux dès le plus jeune âge. Et comme je vous le disais, j'adorais écrire des histoires pour le plus grand nombre. Je faisais lire mes compétitions sportives autour de moi. Et donc, quand je regardais des matchs de football à la télévision, j'ai vibré sur certains matchs, notamment France-Brésil 98, évidemment, mais pas que, la Coupe du Monde 94. Et quand j'entendais les commentateurs sportifs, que ce soit Thierry Roland, que ce soit Thierry Gilardi, je me suis dit, j'aimerais embrasser cette carrière de journaliste. Et puis, de fil en aiguille, on va dire, je vais commencer à aussi m'intéresser à d'autres univers dans le journalisme, comme le journalisme politique. Et c'est pour cela que j'ai assez rapidement intégré des rédactions dès 2009, après mes études, donc au sein du Progrès en tant que stagiaire, et puis au sein de la rédaction sportive de Canal+. Et entre-temps, j'écrivais aussi des articles pour des magazines en faisant des analyses politiques.
Sans ce stage de troisième à la rédaction de La Voix de l'Ain, votre parcours journalistique aurait-il le même?
Alors c'est vrai que le stage de troisième à La Voix de l'Ain m'a bien lancé parce que les journalistes qui composaient la rédaction de La Voix de l'Ain m'ont formidablement accueilli, m'ont montré le journalisme de terrain. C'est un peu l'alpha et l'oméga du journalisme. On l'oublie un peu trop aujourd'hui quand on voit les chaînes d'information en continu où on voit débattre des tutologues autour d'un plateau sur tous les sujets. Eh bien, La Voix de l'Ain, en revanche, m'a montré ce qu'était vraiment écrire, raconter un récit à travers des histoires locales, raconter pour le lecteur ce qui se passait sur un territoire. Et ça me fascinait, j'étais curieux de cela. Et c'est vrai que malgré le fait que le français ne soit pas pour moi une matière aisée, eh bien, ils m'ont poussé à poursuivre dans cette dynamique. Ils m'ont dit avec la passion, voilà, tu peux y arriver, Bastien, tu peux être journaliste. Et donc, je suis leur conseil, j'y suis allé à fond.
Alors, vous avez de qui tenir, puisque votre maman, Marie-Noëlle Gouly, est correspondante au journal La Voix de l'Ain. Elle l'est encore, peut-être?
Non, fut.
Ah, fut. Elle aussi vous a donné l'envie de lire et d'écrire et pas uniquement des articles de presse?
Non, je dirais pas que la passion du journalisme venait de ce côté-là. Disons que moi, le journalisme, ça s'est vraiment construit de fil en aiguille en regardant la télévision, en regardant les matchs de football, en lisant des journaux comme L'Équipe. On peut rigoler aujourd'hui parce qu'on se dit que L'Équipe, c'est un journal sportif. Est-ce que L'Équipe, c'est une référence aussi grande que Le Monde? Bah, dans le monde du sport, si, c'est une référence. Et moi, j'adorais voir ce qui se passait dans une société, comment une société pouvait se transformer, comment la France évoluait aussi politiquement. Et ça s'est construit vraiment année après année et je vais dire presque en autodidacte.
Vous êtes un amoureux de la politique, mais pas seulement. Alors, quel sport, quel sportif, quelles équipes vous ont donné envie d'écrire des articles aussi?
Alors, disons que la première équipe que j'ai vraiment appréciée, c'est Louhans-Cuiseaux 71, qui était en division 2 quand j'étais tout petit. Et c'est la première équipe que j'ai vue professionnellement dans un stade. Voilà, à cette époque-là, il y avait des joueurs qui étaient aussi charismatiques à Louhans-Cuiseaux. Et voilà, donc petit à petit, regarder Louhans-Cuiseaux, puis après l'Olympique lyonnais à Gerland, puisque c'était à 1 heure de Bourg-en-Bresse, et vibrer aussi à Geoffroy Guichard, aux côtés des supporters de Saint-Étienne, eh bien tout cela fait que le football était vraiment une passion pour moi. Après, je suis assez éclectique, c'est-à-dire que le cyclisme, le Tour de France, pour moi, c'est incontournable. Le basket, j'aimais beaucoup, avec la JL notamment. On est servi à Bourg-en-Bresse. Le rugby, c'est un sport merveilleux dans le sens du collectif. Je suis assez éclectique dans mes passions sportives. Je pratiquais un peu le football de manière très modeste, à Marbeau notamment, à Bonsure. Et voilà, donc ensuite, le sport, naturellement, était ma première pratique journalistique en tant que professionnel des médias.
Journaliste sportif ou politique, votre cœur a longtemps balancé.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, assez rapidement, après avoir exercé dans le journalisme sportif, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime analyser une société, j'aime comprendre les mécaniques qui font qu'une politique arrive à se mettre en place, par exemple, comment une société émerge, quelles sont les évolutions au sein de celle-ci. Et c'est vrai que l'aspect politique m'a toujours intéressé. J'ai travaillé sur la métapolitique, c'est-à-dire l'évolution des courants politiques. C'est pour cela que j'ai, en parallèle du journalisme sportif, écrit dans le milieu politique. Et petit à petit, j'ai basculé, on va dire, j'ai peu à peu arrêté l'écriture, l'analyse sportive pour le politique, bien que les deux milieux soient liés, parce que on sait que le sport, c'est une géopolitique. Le sport a un intérêt politique, on le voit avec les Jeux Olympiques. La politique et le sport sont liés. Donc finalement, la frontière n'est pas si énorme entre les deux milieux.
Votre amour pour la politique a-t-il un lien avec votre père qui a été 43 ans au service de la commune de Lannes-Beaupont, dont 25 ans comme maire?
Peut-être qu'il y a eu une influence là-dedans, en sachant que quand on est maire d'une petite commune, il n'y a pas l'aspect politique politicienne, on va dire, comme on peut le voir dans des grandes communes. Donc c'est plutôt dans des petites communes. Peut-être qu'il y a plus de noble, en effet, dans la politique, c'est-à-dire servir le citoyen un peu avec des intérêts, parce que on ne recherche pas forcément la carrière politique. Et c'est peut-être effectivement un point de départ de mon amour de la politique. Après, c'est vrai que j'ai fait des études en sciences politiques qui m'ont confirmé, conforté cet amour pour la politique, l'action politique, puisque finalement, l'action politique, c'est ce qui a une conséquence aussi sur le citoyen.
Vous avez travaillé dans la presse écrite, Internet et la télévision, trois mondes bien différents dans lesquels vous étiez le plus à l'aise.
Je dirais que la presse écrite et l'écriture sont mes premiers amours. Et je reste attaché à cela. Heureusement, quand j'ai écrit pour des sites internet, j'ai eu une certaine liberté d'expression, d'analyse plus approfondie de ce qui était possible dans le milieu de la télévision. La télévision, c'est très bien parce qu'on a des paillettes dans les yeux, on a tout de suite une audience qui est beaucoup plus large que dans la presse écrite ou la presse internet. Mais quand on est journaliste, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Le plaisir, c'est aussi celui de dire les choses, de montrer quelque chose en l'analysant, en n'étant pas superficiel. Et ça, j'ai été confronté à ces univers-là, comme vous le dites, et j'ai pu constater que dans la presse internet et la presse écrite, là où j'ai évolué aussi un certain temps, eh bien, j'ai pu analyser de manière profonde certains sujets.
On parlait de presse écrite, Internet et la télévision. La radio n'a jamais fait partie de vos envies journalistiques.
Oh que si, la radio, bien sûr, pouvait faire partie de mes envies. Après, c'est, on va dire, la carrière qui fait que je n'ai pas eu forcément l'opportunité de travailler au sein d'une radio. Mais la radio, c'est un média, effectivement, qui est aussi attirant que la télévision ou la presse écrite. Le principal enjeu quand on est journaliste, c'est de pouvoir faire son métier correctement et d'essayer de considérer l'information comme un service public. Peu importe que ce soit sur Internet, la presse écrite ou la presse audiovisuelle, télévision, radio, le plus important, c'est ça, servir l'information, qu'elle soit considérée comme un service public.
Vous n'avez jamais eu envie d'animer une émission à Radio Brest, par exemple?
Eh bien, écoutez, je vais déposer mon CV puisque j'ai l'impression que vous me faites une proposition.
Nous, c'est Radio B, hein.
C'est Radio B, mais pourquoi pas Radio B?
Ah
J'ai
bah.
l'impression que vous me perce.
Pourquoi pas, pourquoi pas? Alors, vous êtes aujourd'hui un conseiller en communication. Pourquoi avoir changé de métier? Vous avez fait le tour de celui des journalistes?
Non, disons que j'ai eu un léger désenchantement par rapport au milieu de la presse. Je suis arrivé à un tournant à 38-39 ans où je me suis dit à un moment donné, je n'arrive plus à faire mon métier correctement. Comme je le disais, je considère l'information comme un service public. Et c'est pour cela que j'ai changé de voie, car je considérais que je ne pouvais plus faire mon métier correctement et que je ne pouvais plus servir l'information. Et c'est pour ça que je me suis dit, autant voir quelque chose d'autre et le milieu de la communication notamment.
Conseiller des femmes ou des hommes politiques pourrait aussi faire partie de votre métier. Ce pourrait être le cas un jour.
Possiblement, pourquoi pas, je suis ouvert à toute opportunité. En revanche, ce qui est délicat aujourd'hui, c'est que j'en fais partie, je suis un républicain au sens noble convaincu, et il est très difficile aujourd'hui de se retrouver dans l'offre politique. Je fais partie de ces nombreux orphelins politiques qui ne se retrouvent plus forcément dans l'offre qui nous est proposée aujourd'hui. On a plutôt aujourd'hui un malaise démocratique qui fait que nos partis sont en train de sombrer peu à peu, ne retrouvent plus l'audience qu'ils avaient à une certaine époque, parce que aussi ils ont failli dans leur tâche et leur mission. On a l'impression que les alternances ne fonctionnent plus vraiment. Et dans toute l'offre politique, et on le voit avec l'abstention, eh bien l'offre politique, même si elle est étendue, elle ne répond plus à ses besoins. Donc moi, je serais ravi de guider des personnes, des personnalités, des partis politiques pour aussi apporter peut-être un vent de fraîcheur, pourquoi pas.
Alors avec le métier de journaliste, vous avez assouvi vos envies d'écriture. L'envie d'écrire un roman est arrivée quand et qu'est-ce qui a déclenché cette envie?
C'est arrivé en 2015, on va dire, quand la gauche au pouvoir torpillait définitivement ce pourquoi elle avait été élue en 2012, notamment en utilisant ce qui s'appelle la novlangue, c'est-à-dire duper le citoyen à travers des mots. C'est là où on a vu l'utilisation d'un vocabulaire venant tout droit du marketing et du monde de la communication, mais que je ne défends pas. C'est l'apparition de mots comme flexi-sécurité. En fait, ils ont les aspects de progrès. On considère que des politiques sont de justice sociale, de progrès, d'équité, et en réalité, c'est pour mieux justifier des régressions sociales. Et c'est cela qui m'a donné l'envie, en fait, d'écrire ce roman. Il est né d'une interrogation. Que se passerait-il si certaines tendances déjà visibles aujourd'hui étaient poussées à leur extrême? Et c'est cela le roman, c'est essayer de pousser certaines radicalités comme cette novlangue pour nourrir la réflexion.
Vous auriez pu écrire un essai plutôt qu'un roman. Raconter une histoire plutôt que disserter sur le monde actuel, c'est plus facile, on ne se met pas directement en avant.
Disons que la fiction permet parfois de dire plus clairement et de faire passer des messages que l'essai ne peut pas. La fiction permet de grossir les traits du réel pour peut-être mieux en révéler les mécanismes invisibles. Et je considère que la dystopie, comme je nomme ce roman, c'est un genre, se base sur certains aspects de notre réalité qui nous choquent. Et c'est cela que j'ai voulu faire avec Décadence. Un essai ne pouvait peut-être pas réaliser cette mission-là.
Vous avez donc commencé à écrire votre premier roman en 2015 et il n'est paru que le 31 octobre 2024. Alors vous auriez pu ne jamais le sortir, ne jamais le terminer.
Oui, en fait, en 2015, quand j'ai fini la première maquette de mon roman, j'avais un peu cette peur d'être jugé, surtout que j'étais encore journaliste. Et je me suis dit, si j'obtenais que des refus de maisons d'édition, j'allais être assez mécontent et on va dire, j'étais pas très aventureux dans la démarche. Mais en 2022-2023, quand je voyais justement certains aspects de la société commencer à dépasser la fiction, la réalité commençait à dépasser ma fiction vers 2022-2023, je me suis dit, non, là, il faut aller jusqu'au bout de la démarche, il faut reprendre le roman, il faut le réécrire un tout petit peu, il faut le mener à son terme et le proposer à des éditeurs. Tant pis s'il est refusé par des éditeurs, au moins je l'aurais proposé, je vais jusqu'au bout de la démarche et l'Harmattan a accepté volontiers ce projet, je les en remercie.
Vous aviez peur que la réalité ne dépasse votre fiction?
Oui, tout à fait. Disons que comme j'ai écrit ce roman en me fiant à certaines dérives de notre société, je voyais très bien qu'en 2022-2023, certaines politiques étaient menées, certaines radicalités, je peux aller sur les sujets, mais comme le communautarisme, par exemple, l'affaiblissement des savoirs à l'école, l'affaiblissement du niveau politique, qui sont dénoncés dans le roman, c'était très concret dans le roman et c'était très concret aussi dans la réalité. Donc je me suis dit, il faut aller plus loin dans la démarche, puisqu'il faut nourrir la réflexion pour que le lecteur puisse justement trouver un peu avec sa curiosité des choses qui le choquent et se dire que peut-être plus tard, ce qui se passe dans le roman, c'est peut-être ce qui va se passer dans la réalité. Je ne suis pas Madame Soleil, ce n'est pas une prédiction, mais en tout cas, le but, c'est vraiment de nourrir cette réflexion-là.
Vous avez l'habitude d'écrire pour les médias, c'est facile d'écrire un roman?
Non, écrire pour un roman est totalement différent par rapport à écrire pour un média. Écrire pour un média, il s'agit de faire preuve de subjectivité désintéressée. C'est-à-dire que écrire pour un média, c'est raconter les faits, expliquer les faits, l'analyser. Un roman, il y a une structure qui est totalement différente puisque c'est un récit. On essaye de tirer le fil de ce récit pour l'amener de manière très construite jusqu'à une conclusion, de l'introduction à une conclusion. Et il faut le faire cela pour que le lecteur ne s'ennuie pas avec une certaine aussi dextérité littéraire au niveau du vocabulaire et au niveau de la pensée. Il faut être aussi assez construit et ne pas partir bille en tête dans un projet sans savoir où on veut aller dans l'écriture. Donc c'est vraiment deux projets qui sont totalement différents. Je dirais que la presse écrite ou les médias audiovisuels sont des aspects du journalisme et dans l'écriture, puisque dans l'audiovisuel, on écrit aussi pour faire nos sujets, qui sont totalement différents. Ce sont d'autres mécanismes par rapport à celui d'écrire un livre.
Décadence, votre premier roman est paru aux éditions L'Harmattan le 31 octobre 2024. Pouvez-vous, sans trop en dévoiler, nous en raconter l'histoire?
Le récit plonge les lecteurs dans une France où la République est balayée, dans une France qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. D'ailleurs, la France ne s'appelle plus France, elle s'appelle Eurofrance, elle n'est plus qu'une région européenne parmi tant d'autres. Et dans cet univers-là, nous avons des personnages qui sont des galériens de la vie, mais qui perçoivent la société différemment. Nous avons ceux qui essayent de résister face à cela, qui veulent rétablir les valeurs de la République, et d'autres qui acceptent cette situation, qui sont aussi certainement manipulé, et le propre de la manipulation est de ne pas être perceptible par celui qui l'a subi, et je fais confronter ces deux mondes. Et le but, vraiment, encore une fois, c'est de nourrir la réflexion à travers ce roman, et on se demande si un jour la réalité ne va pas dépasser cette fiction-là.
Dans le roman, un de vos personnages évoque le début du siècle. Vous situez Décadence dans quelle période? On pourrait dire le 21e.
C'est dans un futur proche. Décadence est dans un futur proche, je dirais que c'est un moyen terme. Le lecteur sera le juge de ce temps-là. Je ne veux pas trop en dire, puisque finalement, chacun a sa propre appréciation de l'évolution de notre société.
On parle de dystopie à propos de décadence, on passe inévitablement à 1984 de George Orwell. Alors j'imagine qu'il n'est pas la seule œuvre qui vous ait influencé. Il y a d'autres romans, d'autres films, d'autres jeux vidéo par exemple qui vous ont donné envie d'écrire une dystopie.
Il y en a tellement de dystopies qui sont innombrables. Vous avez raison de citer 1984 de George Orwell, qui est la référence au niveau des dystopies, mais même George Orwell, on dit que son maître à penser, c'était Zamatine, avec son livre Nous autres. Il était soviétique et il avait dénoncé le système totalitaire en Russie en déshumanisant les individus. Une autre auteure que j'adore personnellement, et vous allez être peut-être surpris, elle s'appelle Ayn Rand, c'est une auteure surtout connue aux États-Unis, peu en France, qui est de la philosophie libertarienne, qui est connue aujourd'hui parce que Elon Musk était l'incarnation de cette philosophie-là, c'est l'individualisme exacerbé, c'est totalement opposé à mes valeurs idéologiques, sauf qu'elle a un talent pour écrire sur des sujets liés à l'avenir de la société qui, moi, m'ont plu. L'un de ses principaux livres, c'est Hymne en tant que dystopie. Et j'invite tout le monde à lire ce livre parce qu'il est assez méconnu et pourtant, il est aussi très abordable puisqu'il fait à peine plus de 100 pages dans mes souvenirs avec un style assez simple. Et en fait, elle montre aussi les dérives d'une société collective, collectiviste, d'une société à la soviétique du temps du communisme, mais qui peut se transposer aussi peut-être dans certains aspects de notre réalité aujourd'hui, dans certaines sociétés. Et pourtant, c'est une auteure qui, politiquement, est totalement à l'opposé de mes idées, mais elle écrit tellement bien qu'en réalité, on peut se plonger assez facilement dans son monde. Et George Orwell est totalement opposé à Ayn Rand sur l'aspect philosophique, puisque lui, il a plutôt les valeurs sociales en son sein, en son cœur. Et lui aussi, George Orwell arrive à plonger, à faire plonger le lecteur dans une société. On s'y croirait. C'est lui un peu l'inventeur du Big Brother, d'ailleurs, dans la société. Si on connaît le mot Big Brother, c'est grâce à George Orwell. Voilà. Après, moi, je veux rendre aussi honneur à Stefan Zweig, qui a écrit dans les années 20 L'uniformisation du monde. Alors, c'est à peine 100 pages. Et c'est d'une redoutable perspicacité. C'est-à-dire qu'il arrive à voir la mondialisation marchande, financière, culturelle dans les années 20 et dire, voilà, en Europe, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une américanisation du monde, de l'Europe. Et demain, c'est la culture aussi qui sera en danger et aussi nos modes de consommation qui vont être bouleversés. Et ça, il écrit dans les années 20. Stefan Zweig est quelqu'un qui a été d'une clairvoyance, je trouve, génialissime.
Vous classez Décadence comme une dystopie ou comme un roman d'anticipation? C'est la même chose pour vous?
Exactement, je dirais que c'est la même chose avec la petite subtilité que la dystopie par rapport au roman d'anticipation évoque une société d'un côté sombre. C'est-à-dire qu'elle plonge le lecteur dans une société que l'auteur ne voudrait pas voir. Le roman d'anticipation, en soi, ça peut être une utopie. Ça peut être une société idéale qu'on perçoit dans l'avenir. C'est de plus en plus rare quand même ce genre d'écriture aujourd'hui, peut-être lié au contexte social, économique et politique de notre temps. En revanche, la dystopie, voilà, permet de nourrir la réflexion sur la société de demain avec des choses concrètes de notre réalité, des aspects de notre société qui nous choquent.
Le titre de votre roman est Décadence. Il est question de la déchéance politique de la France. La décadence est un concept historique. On pense à celle de l'Empire romain ou de l'Empire ottoman qui ont disparu après plusieurs siècles de domination. Avec vous, il est question de la disparition de la France en tant que nation, mais pas seulement. Toutes les valeurs de la République sont mises à mal. Le triptyque liberté, égalité, fraternité est bien loin.
Tout à fait. En fait, j'explique que dans cette société-là, la liberté, l'égalité, la fraternité ont disparu. Mais pire que cela, c'est-à-dire les principes cardinaux de notre République actuelle, que sont la République sociale, la démocratie, la laïcité, et l'un des principes qu'on évoque assez peu, la République indivisible, qui fait que chacun est citoyen d'une nation et qu'on est un seul et même corps politique, sans regarder l'ethnie des gens, la couleur de peau des gens. Eh bien, cela est balayé dans le roman. Et je crois qu'on va vers un système comme cela aujourd'hui, même si moi je pousse les radicalités à son extrême, mais on balaye de plus en plus aujourd'hui les valeurs de notre République. On oublie très vite que notre République, c'est dans l'article premier de notre Constitution, c'est une République sociale, c'est la laïcité, c'est la démocratie et c'est l'indivisibilité. Et aussi, on oublie un autre principe, la France, c'est de la souveraineté. C'est le titre premier de notre Constitution et ça, on l'oublie assez vite, alors que la souveraineté est intimement liée en France à la démocratie.
Dans Décadence, la France est devenue une région européenne, l'Euro-France, où règne la violence sociale et politique. On ne peut pas ne pas penser au nouvel ordre européen entre 38 et 45 auquel se sont associés la France de Pétain. En quoi l'Europe d'Hitler ressemble à l'Europe de Décadence? Il règne également une violence sociale et politique.
Oui, alors, vous êtes peut-être le premier à me dire ça, mais c'est très intéressant. Moi, je ne tomberai pas dans la loi de Godwin en faisant une analogie entre cette Europe-là, imaginez, vous avez raison, entre 39 et 45, en voulant imposer une Europe qui était une Europe fasciste et nazie. Je suis beaucoup plus sur le concret actuel en montrant que l'Union européenne aujourd'hui aussi a certaines dérives, qu'il y a un hiatus clair et net entre les citoyens et le projet de construction européenne, c'est-à-dire que Les politiques nous ont vendu une Union européenne qui allait nous apporter de la croissance, qui allait être le prolongement de la République finalement française, qui allait apporter pour les pays de l'Est et les pays qui étaient un peu plus faibles économiquement, la France, une prospérité et des valeurs sociales. En fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est un marché unique qui s'est construit. On l'a construite économiquement et bien souvent au détriment des peuples. D'ailleurs, c'est illustré par l'une des phrases de l'ancien président de la Commission européenne qui s'appelle Jean-Claude Juncker. Il avait dit, il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens. Je trouve que cette phrase est terrible et ça fait partie des points de départ du roman.
Dans Décadence, on suit les aventures de Maximilien, trentenaire fougueux et d'une poignée d'idéalistes qui luttent pour rétablir une république agonisante et ringardisée, comme vous l'écrivez. Ils sont contre l'Europe ou contre cette Europe qui a fait de la France une région européenne?
Oui, exactement. Je pense qu'il faut arrêter de faire l'amalgame entre Union européenne et Europe. Il est d'abord en lutte contre une Union européenne qui soumet les nations. C'est une nouvelle Union européenne hein, dans la société que je décris. C'est pas forcément l'Union européenne actuelle, même s'il y a beaucoup de ressemblances. Mais dans cette nouvelle Union européenne, elle a soumis totalement les nations, et même politiquement, puisque le président est devenu un président fantoche dans le roman. Et Maximilien n'est pas quelqu'un qui est contre l'Europe, il n'est pas contre les nations voisines, il n'est pas contre l'Allemagne, il n'est pas contre l'Espagne, il n'est pas contre le Royaume-Uni. Pour lui, l'Europe, elle doit se construire avec les nations et avec chacune des valeurs qui composent ces nations-là. Et je crois que ça, c'est très important aujourd'hui politiquement de faire la distinction entre un projet européen et le projet de l'Union européenne. Aujourd'hui, on le confond un peu entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, lors du traité constitutionnel en 2005, lors du référendum, tous ceux qui ont voté non, on les a considérés comme anti-européens, quasiment dans un simplisme effrayant. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Je pense que les Français, d'ailleurs, globalement, aiment l'Europe, veulent d'une Europe, mais ne veulent pas de cette Europe-là. Ils veulent une autre Europe. Eh bien, moi, je tire un peu le fil de ça. Je montre que si l'Union européenne continue dans cette démarche-là, eh bien, elle met à mal les principes démocratiques et, évidemment, le respect des nations.
Dans cette Europe, celle de décadence, il est question de nouvel ordre que les citoyens doivent respecter sous peine d'être exclus socialement. Pour vivre, il faut travailler et là aussi, il faut montrer patte blanche pour avoir un emploi et rémunérer dignement.
Oui, alors c'est un peu le système du crédit social chinois, si vous voulez, et que j'applique dans notre modèle français. Et si vous voulez, il y a eu quand même quelque chose qui m'a nourri intellectuellement, c'est ce qui s'est passé durant la période Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose aujourd'hui qui nous paraît quand même assez absurde, c'est-à-dire qu'on devait écrire nos propres sorties pour aller faire un footing d'une heure dehors. On sait très bien qu'en plus, à l'extérieur, il n'y avait pas trop de danger de se contaminer quand on courait dehors en plein air. Et on devait quand même se faire une propre autorisation pour faire un simple jogging ou promener son chien sous peine d'amende. Évidemment que ça inspire. On peut se dire, si on va plus loin dans ce système, puisque nous avons accepté ce système-là, et moi, le premier, j'ai accepté cela, puisque je me suis dit, c'est pour le bien commun, c'est pour le bien de tous. Eh bien, si nous avons accepté cela, qu'est-ce qui va se passer si on franchit une autre étape, si on va sur un modèle peut-être un peu plus chinois? C'est pas finalement absurde. La Chine est aujourd'hui considérée comme peut-être la première puissance économique. Est-ce que c'est pas elle qui va imposer certains modes de vie? Eh bien, peut-être qu'on va calquer certains modes de vie à la chinoise.
Alors bien évidemment, dans Décadence, la population est éduquée avec des valeurs qui sont loin d'être celles de cette soi-disant vieille république. Et il est interdit d'évoquer les valeurs que les plus anciens ont connues. Une pensée unique, une Europe totalitaire, une nouvelle langue. Tout est bon pour effacer le passé, tout est bon pour effacer l'histoire.
Oui, et je crois que la première démarche, quand on veut construire une nouvelle société, et tout à l'heure vous m'aviez parlé de la Seconde Guerre mondiale, eh bien à quoi s'attaque-t-on? Au départ, quand on veut recréer une société, quand on veut essayer de manipuler des foules, eh bien, c'est de réécrire l'histoire, de réécrire une vérité unique. Et c'est ça aussi que j'ai voulu explorer, c'est-à-dire que on essaie d'oublier ce qu'a été la France, ses valeurs, sans être nostalgique, mais le roman essaie d'expliquer que voilà, la République, c'était quelque chose de passéiste, c'était quelque chose d'archaïque. Et finalement, j'ai envie de dire, par certains aspects de notre société, il y a des signaux, malheureusement, qui nous font penser à cela. C'est-à-dire que quand, par exemple, je ne sais pas, quand on essaye de remettre, par exemple, un jour de congé en cause, je ne vais pas venir sur le 1er mai, mais sur n'importe quel jour de congé, quand on essaie de le remettre en cause pour dire bah, « ça, c'est le progrès, c'est l'avenir », eh bien, en fait, on essaye aussi d'éluder pourquoi on a eu ce jour de congé. Pourquoi, en fait, certains se sont battus chez nos pères, grands-pères, pour avoir ce jour de congé? Eh bien, cela, en fait, essayer de rétablir une seule et même vérité, je pense que c'est un danger pour notre société. Il faut souvent faire preuve de hauteur dans l'histoire pour essayer de comprendre aussi pourquoi on en est venu là. Je trouve qu'en fait, en 2026, nous sommes devenus de plus en plus une société où il y a de la régression dans tous les sens du terme, social, économique, on le voit, évidemment, et politique. Et je trouve que c'est un danger, et voilà, j'ai voulu explorer ça de manière un peu plus radicale.
Alors, il y a plusieurs personnages atypiques dans ce roman. Léon est l'un d'eux, il est considéré comme un cas social, il n'aime pas la télévision, il préfère les livres, il a une éducation et une culture différentes de celles de ses autres camarades de classe, il est aussi issu d'une famille aisée dont la mère ne partage pas les idées de son mari, pro-Euro-France, s'éduquer et se cultiver par d'autres moyens que l'école et les médias, se forger sa propre opinion, c'est important et c'est compliqué à la fois.
Oui, et on est dans une société en fait où règne un concept qui est né dans les années 90 qui s'appelle le tititainment. Voilà, dans cette société, sans entrer trop dans le côté technique, mais dans cette société-là, c'est l'abrutissement qui doit régner et en fait. Le politique considère qu'il suffit d'assouvir les besoins primaires d'une société, de la rendre abrutie par le divertissement, pour faire une société en fait calme, apaisée et annihiler toute contestation et révolte sociale. Et voilà, c'est ça que j'ai voulu montrer. Donc tous ceux qui s'écartent de ce schéma-là, ceux qui veulent s'instruire, qui n'acceptent pas ce schéma-là, comme la maman de Léon, comme Léon finalement, le fils, eh bien sont considérés comme des marginaux.
Alors on suit Léon en classe où les livres scolaires sont numériques et ne racontent pas l'histoire du monde comme elle est ou comme elle a été. Manipuler la population passe bien évidemment par l'école et les manuels scolaires.
Je ne remets pas en cause les enseignants qui font un travail
Ah non.
formidable. Mais on sait très bien que pour rééduquer une population, pour essayer de faire en sorte qu'une société nouvelle se construise, eh bien, ça passe par l'école. L'école, c'est le creuset de la nation. C'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est elle qui va forger les opinions de demain. C'est elle qui va éclairer nos citoyens. Malheureusement, quand on voit ce qui s'est passé avec les différentes tendances qui se sont produites politiquement, c'est-à-dire qu'on a eu le pédagogisme, puis l'école libérale au sein de l'école, où le savoir n'était plus prioritaire pour nos chères têtes blondes, où on considérait que l'école, c'est d'abord de l'amusement, c'est d'abord de considérer l'enfant comme un individu qui n'a pas forcément besoin de savoir, mais qui doit d'abord assouvir ses besoins. Ça, c'est un peu la logique pédagogiste. Eh bien, je pense qu'on est dans un certain problème, une dérive de notre société. L'éducation nationale, malheureusement, parfois se trompe de combat, à mon avis. Et là, dans ce livre, je dévoile que, effectivement, les savoirs sont complètement rasés, et il n'y a plus besoin, effectivement, d'apprendre quoi que ce soit aux élèves, puisque, de toute manière, ce sont des personnes qui doivent aller sur le marché du travail demain, être malléables, sans que ces personnes ne doivent comprendre le sens du monde. Or, l'école, normalement, le sens premier, c'est de faire des citoyens éclairés qui puissent comprendre ce qui se passe autour de soi, autour d'eux-mêmes, et qui puisse analyser une société, être critique, comprendre ce qui se passe pour être le plus éclairé possible.
On apprend dans la classe de Léon que les frontières de l'Europe sont devenues fictives, les enfants ne connaissent même plus les pays constituant l'Europe. C'est ça l'Europe, assure avec fierté Nora, la maîtresse de Léon. Effacer l'histoire avec un grand H pour imposer son histoire, c'est aussi ça l'Europe de décadence.
Oui, bah, imposer l'histoire, encore une fois, oui, à partir du moment où on impose un récit, on impose une histoire, on impose une instruction à un enfant, eh bien, ça va le forger intellectuellement. Et là, dans ce roman, c'est le forger d'une manière négative. Encore une fois, l'éducation nationale, l'école, c'est le creuset de la nation. Donc, tout se passe là pour la société de demain. Si demain, nous n'avons pas des têtes blondes éclairées, qui puisse comprendre le monde qui l'entoure, nous verrons une France qui sera probablement en décadence.
La mère de Léon, Laura Lemoy, est une professeure de médecine reconnue dans son milieu, celui de la recherche, sur les placentas humains synthétiques. Elle s'offusque des hôpitaux tous privatisés et soumis à des tarifs exorbitants pour les patients. Alors depuis que Denis Kessler, l'ami de Nicolas Sarkozy, a déclaré en 2007, je cite, « Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance », dans décadence, la sécurité sociale n'a plus sa place, elle a disparu du paysage social.
Eh oui, parce qu'en fait, pourquoi elle a disparu du paysage social, la sécurité sociale? Parce qu'on a considéré que la République sociale, faisant partie des quatre piliers de notre République, compris dans l'article premier de notre Constitution, n'avait plus lieu d'être. On considère que c'est archaïque. On considère que le futur, c'est la privatisation à tout va, que tout fonctionne si l'hôpital est géré par un chef d'entreprise, que la santé ne doit être que l'affaire de puissants, que finalement, on a la santé qu'on mérite avec le porte-monnaie qu'on a. Moi, c'est une dérive que je crains. On voit aujourd'hui un hôpital public en souffrance. Pourtant, malgré le Covid, qui s'est passé ces dernières années aussi avec la pénurie de médicaments, par exemple, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'inversion spirale au niveau de la santé publique. Et ça, c'est une de mes craintes. Alors, peut-être que je grossis le trait, et c'est le but dans le roman, pour nourrir encore une fois la réflexion. Mais la question se pose. La santé, c'est quand même un enjeu majeur d'une société.
Dans l'Europe et l'Euro-France de décadence, il y a aussi ces quartiers détenus, même des quartiers et des régions détenus par et gérés par des communautés religieuses qui imposent leurs propres règles de vie. L'Euro-France n'est pas une région laïque.
Non, la laïcité, qui est l'un des autres piliers de notre République, est aussi balayée. Et tout ce qui fait aussi référence à l'indivisibilité de notre République, c'est-à-dire le fait qu'un citoyen est d'abord citoyen et non pas quelqu'un avec une couleur de peau, une religion. Je dénonce évidemment dans ce roman le multiculturalisme qui s'installe, le communautarisme exacerbé, évidemment, dans ce roman, mais qui se voit aujourd'hui de manière flagrante. Je rappelle qu'à seulement quelques kilomètres de la France, il suffit de dépasser, de franchir la Manche pour voir qui s'appelle des tribunaux de la charia. Au Royaume-Uni, il y a ce qui s'appelle les tribunaux de la charia, une justice parallèle qui est acceptée aujourd'hui pratiquement de manière consensuelle par le politique, et même quand il le dénonce, finalement, il le dénonce à demi-mot. Ça règle des contentieux entre musulmans d'ordre privé sur des litiges liés à la famille. C'est un danger qui menace effectivement, possiblement, la France. Et le Canada a aussi, dans l'Ontario, suivi ces tribunaux de la charia qui existent aussi. Moi, voilà, c'est l'une de mes craintes, c'est de voir le communautarisme qui gangrène petit à petit les sociétés occidentales. Et la France ne fait pas exception. On voit que gauche, droite, centre politique, parfois, il y a des compromissions qui sont faites dans des villes, dans certaines villes, et ça, toute tendance politique. Et moi, c'est une de mes craintes, et je pense qu'il faut le dénoncer, et je passe par le récit, par la fiction, pour le dénoncer.
Le gouvernement en place dans l'Euro-France accepte trois partis politiques qui forment l'Alliance des modérés, le PSLE, le LUCH et le LNR, qui sont alliés au syndicat patronal, le MDE. Une petite explication de texte s'impose. Pourquoi et comment sont-ils arrivés au pouvoir?
Alors, en fait, sont arrivés au pouvoir, et je vous assure que quand j'ai écrit ça en 2022, je n'ai pas, vous avez vu, l'apparition du livre, c'est 2024. Donc, je ne pouvais pas présager de ce qui allait arriver, et notamment une partie de cette histoire-là. Finalement, la réalité dépasse un tout petit peu la fiction, parce que la droite, les Républicains, s'est alliée sans problème avec le centre macroniste pour gouverner en France, et même si les deux partis ont été désavoués dans les urnes. Eh bien, c'est à peu près la même chose dans le roman Décadence, puisque, en fait, ces trois partis ont été désavoués à un moment dans les urnes, mais ont utilisé les armes constitutionnelles pour refuser l'arrivée au pouvoir d'un parti que je nomme bleu-blanc-rouge, qui est un parti considéré comme d'extrême droite. Alors, toute analogie avec le présent, eh bien, je la laisse au lecteur. En tout cas, voilà, l'histoire montre en décadence que les trois partis veulent verrouiller la démocratie et ont trouvé l'arme constitutionnelle pour verrouiller la démocratie et se garder le pouvoir entre eux. On peut dire que la crainte d'une démocratie verrouillée, peut-être qu'elle est exagérée actuellement en France, sauf qu'on a bien vu que certains choix électoraux dernièrement, même si on peut remonter à 2005 avec le référendum, eh bien, existent.
Alors c'est l'Union européenne qui valide idéologiquement les partis en Europe dans Décadence. Le BBRF, un bleu, blanc, rouge, France, un
Rouge
parti
France,
d'extrême
oui.
droite, a le droit d'exister. Il fallait bien un semblant d'opposition. La notion de gauche et de droite est relative dans l'Euro-France.
Oui, mais est-ce que c'est pas le cas déjà aujourd'hui en France? C'est-à-dire qu'on a bien vu que les différentes alternances depuis 40 ans sont des alternances un peu illusoires. On voit que c'est la continuité à chaque fois des politiques précédentes. François Hollande, encore une fois, quand il a été élu en 2012, un mois après son élection, il a remis en cause son projet politique lui-même à considérer que il fallait accepter le marché et que la finance n'était plus son ennemi, contrairement à son discours de Beauvais qui l'a poussé vers la victoire. Donc, je crois qu'on est dans une période aussi d'éclaircissement politique aujourd'hui et nous avons des partis qui sont à peu près les mêmes, du Parti socialiste aujourd'hui aux Républicains, qui ont développé à peu près les mêmes discours ou en tout cas appliqué les mêmes politiques dans une certaine forme de continuité. Et c'est ce qui provoque aussi la fracture entre le citoyen et la politique, puisque le citoyen ne s'y retrouve plus démocratiquement. Et je trouve ça extrêmement dangereux, puisque s'il y a une aussi forte abstention, eh bien, je pense qu'il y a une responsabilité des partis qui ont gouverné depuis 40 ans. Encore une fois, moi, dans ce roman, je ne fais pas de prosélytisme. Je ne dis pas pour qui voter. Je ne dis pas pour qui ne pas voter. Ce n'est pas le but du roman. C'est vraiment de nourrir la réflexion.
Bien évidemment, Maximilien et ses amis revendiquent et manifestent leur opposition au gouvernement en place. La police et l'armée les surveillent et leur espérance de vie de résistant est plutôt courte, vu les moyens employés par les services de sécurité.
Oui, disons que nous sommes dans un régime totalitaire. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans une forme de soft totalitarisme. Ça, ce sont les propos, par exemple, de Natacha Polony. D'autres parlent de post-national, c'est-à-dire qu'on a toutes les apparences de la démocratie, mais elle est malade car submergée par exemple, la tentation des marchés. Et dans ce monde-là, la décadence, je vais plus loin, je franchis encore une étape supplémentaire, c'est-à-dire que toute idée politique contraire à la doxa, eh bien, vous met plus en tant que marginal, mais vraiment en tant que voyou, quasiment en tant que délinquant. C'est un peu aussi ce qui se passe, par exemple, dans un pays comme la Chine. Voilà, j'explore de manière un peu provocatrice, encore une fois, pour nourrir la réflexion.
Dans Décadence, on retrouve le terme d'extrémiste. Tout à l'heure, je parlais de résistance, de résistant à propos de Maximilien. Quand je dis, on se croirait presque au temps de la Seconde Guerre mondiale, quand les résistants étaient qualifiés de terroristes. Vous êtes de ceux qui croient que l'histoire est un éternel recommencement?
Non, je ne crois pas. En revanche, je suis sûr d'une chose, c'est que la France a une particularité. C'est ce qui s'appelle le génie français. On peut toujours être surpris par ce que fait une nation française. On ne sait jamais quand est-ce qu'elle peut exploser, quand est-ce qu'elle peut renverser la table, quand est-ce qu'elle peut changer la donne. Et je pense que ça, c'est l'une des curiosités de notre pays. C'est aussi peut-être l'une de nos beautés, c'est-à-dire ce génie français. Le mouvement des Gilets jaunes, pour beaucoup de politiques, ça a été aussi l'expression du génie français. C'est-à-dire cette explosion inattendue sociale qui s'est placée sur les ronds-points dans la France périphérique. Ça a été une surprise pour les politiques, pour les médias, pour tous les experts autour des plateaux. Ils ont été tellement submergés qu'ils les ont traités de tous les noms d'oiseaux. Je ne sais pas si l'histoire est un éternel recommencement. En tout cas, je pense que nous sommes toujours surpris par ce que peut faire le peuple français, la nation française, grâce à ce génie français qui nous a construits depuis peut-être des millénaires.
Alors, malgré l'interdiction des autres partis que ceux autorisés, il est possible de présenter un candidat aux élections législatives dans le cas de Décadence si l'on est soutenu par un des trois partis en place. Alors, comment est-ce possible et quelles sont les chances de l'emporter?
Oui, alors oui, effectivement, dans ce monde-là, comme la démocratie est verrouillée, on ne laisse aucune chance aux oppositions. La seule chance pour qu'un candidat émerge et puisse être élu, c'est qu'il soit adoubé par l'un des trois partis qui gouvernent. Donc, effectivement, vous voyez que ces marges de manœuvre sont extrêmement limitées. C'est un principe constitutionnel dans le roman Décadence, qui est aussi approuvé par la supranationalité, la supériorité politique qu'a dans ce roman l'Union européenne, l'Europe. Et donc, en fait, nous avons un Maximilien qui va essayer de se présenter à une élection, adoubé de manière un peu rocambolesque par un parti. Il essaye, en fait, de trouver un moyen pour se faire élire et de trahir après le parti qu'il a adoubé, puisque c'est un résistant. Il fait un peu une forme d'entrisme politique pour essayer de faire basculer les choses. Bien qu'il soit assez réaliste, il n'est pas naïf. Il sait très bien que tout seul, même s'il est élu, il ne pourra pas changer la donne. Mais il veut entraîner une dynamique pour que derrière, d'autres puissent faire comme lui et ensuite réveiller une nation pour faire exploser ce génie français.
Maximilien se présente non pas à Paris, ni en région parisienne, mais en Saône-et-Loire, pas loin de Louhans. C'est un clin d'œil à votre région de naissance, la Bresse-Beaupont n'étant pas loin. Pourquoi il est parachuté dans sa région d'origine? C'est plus simple pour lui?
Tout à fait. En fait, c'est un petit clin d'œil que j'ai voulu faire à ma région natale, à cette belle terre bressane qui m'accueille encore quand je reviens d'Île-de-France plusieurs fois dans l'année. Dans ce récit-là, effectivement, aller en province, dans un territoire éloigné de Paris, lui semble plus accessible parce que éloigné, on va dire, du centre politique et de toutes les attentions médiatiques. C'est pour cela que Maximilien a choisi de trouver une circonscription qui lui convenait en province, et c'était sa circonscription de naissance, la Bourgogne, et notamment la ville de Louhans.
Sur le quatrième de couverture, en dessous du titre de votre roman « Décadence », il est écrit « Quand le progrès est synonyme de régression ». Les mots « progrès » et « régression » sont plutôt antinomiques, en tout cas c'est un sacré paradoxe.
Oui, eh bien en fait, je montre à travers cette phrase la novlangue politique qui dicte certains choix politiques actuels, et je dirais depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que on essaie de duper le citoyen en utilisant des mots positifs, comme le mot de progrès, notamment, pour en fait justifier des régressions sociales. Vous savez, quand, par exemple, on essaie de supprimer un jour de congé par solidarité envers les plus anciens, eh bien, on va utiliser par solidarité, le mot par solidarité. On sait très bien que derrière, cet argent-là ne financera pas forcément la solidarité. C'est simplement un moyen de faire travailler plus les Français. C'est une mesure de régression sociale. Mais on ne peut pas politiquement vendre cela comme de la régression. Donc, on va utiliser le mot de régression. On va aussi parfois utiliser le mot de justice. On va dire aussi que, par exemple, la retraite par répartition, c'est quelque chose d'archaïque et que le progrès, c'est de venir par capitalisation, sans exposer tous les problèmes que ça a eu aux États-Unis, par exemple, hein, avec des gens qui doivent travailler jusqu'à plus de 80 ans, qui continuent de travailler parce que leur retraite, les fonds de pension, enfin les retraites qui sont financées par les fonds de pension, eh bien, ont été réduites à néant à cause des fluctuations boursières. Voilà, aujourd'hui, on est politiquement dans une spirale assez négative en termes de vocabulaire pour justifier des régressions sociales. On ne veut pas dire clairement où l'on veut mener les Français. On essaye de trouver des mots positifs simplement pour duper. Le propre de la manipulation est de ne pas être perceptible par celui qui l'aperçoit. Eh bien, ça fait partie de la manipulation, le vocabulaire.
Vous êtes particulièrement actif sur les questions politiques et sociétales. Votre engagement est marqué par la défense de la souveraineté républicaine. L'Europe ne sera jamais une république.
Je crois qu'on voit très bien que l'Union européenne, puisque appelons l'Europe l'Union européenne en tant que telle, puisque c'est cela, je pense, à laquelle vous faites référence. Et en fait, l'Union européenne, on voit très bien que elle n'est pas le prolongement de la République française. Ce n'est pas du tout son ambition. L'Union européenne, elle est caractérisée par le fait qu'il y ait un marché unique, le fait que ce soit du business en premier lieu et qu'il faut financiariser toute l'économie, tous les aspects de notre souveraineté même doivent passer sous couperet de l'économisme. Tout ce qui fait le succès de la France, d'ailleurs les fleurons comme EDF, SNCF, le nucléaire, eh bien les barrages hydrauliques doivent être privatisés parce que pour l'Union européenne, ça contrevient aux règles du marché. En fait, on voit très bien que l'Union européenne n'a pas du tout l'ambition d'être une république à la française. D'ailleurs, c'est bien l'Union européenne qui essaye de pousser pour qu'on fasse des réformes, type réforme des retraites. Il suffit de lire les recommandations lors des semestres européens pour avoir en fait la politique économique de la France. À quelques lignes près, en fait, la France essaye de suivre les recommandations des semestres européens de la Commission européenne. L'Union européenne n'a pas du tout l'ambition de mettre un régime politique à la française et de faire ruisseler en fait si un marché en France vers les autres pays. C'est pas du tout son ambition puisque son ambition c'est le marché unique.
Vous êtes parti donc avec votre roman sous les bras pour le présenter lors des inévitables séances de dédicaces. Comment ont réagi vos lectrices et vos lecteurs? Il est forcément question de politique et d'Europe.
Non, en fait, il y a une grande curiosité et il est très bien perçu par les lecteurs. Alors, l'auteur propose, le lecteur choisit et fait sa propre critique. Moi, ce qui m'a amusé, c'est que j'ai eu une fois, c'est une originalité, un lecteur qui est venu en séance de dédicace et qui m'a dit « Mais votre monde, c'est, vous vous présentez comme une dystopie, comme quelque chose de sombre. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui est un idéal. » Lui, au contraire, défendait ce monde-là parce qu'il considérait que la démocratie pouvait être verrouillée s'il y avait une menace, par exemple, d'un parti extrémiste, même s'il venait au pouvoir par la démocratie. Et il considérait qu'on devait imposer aux citoyens certaines choses, que le citoyen n'était pas assez mûr pour réfléchir et pour agir de manière progressiste, pour agir de manière bonne pour l'avenir d'un pays. Et donc, en fait, il me disait, moi, je considère que votre roman, c'est plutôt une utopie, c'est une originalité, hein. C'est vraiment un cas unique. Sinon, les lecteurs qui sont venus vers moi et qui m'ont fait une critique, ils ont plutôt été effrayés, ils ont considéré que ce roman était finalement assez réaliste, un peu trop réaliste même.
Maxime a une trentaine d'années, vous écrivez votre livre, vous avez à peu près une trentaine d'années aussi. Maxime, c'est pas un peu vous?
Il y a toujours une part d'auteur, on dit, dans l'un des personnages du roman. Oui, sans doute, évidemment, surtout ses racines au sein de la
Oui.
Bresse. Je ne vais pas me cacher derrière cela. C'est évidemment qu'il y a une part de moi, peut-être que Maximilien fait des choses que moi, je n'ai pas pu faire ou que je n'ai pas osé faire. Peut-être, c'est vrai. Après, c'est très romancé, il y a un récit, on voit aussi, on suit sa vie de couple, on voit quand même qu'il y a quelques divergences hein, par rapport à moi. J'ai voulu quand même créer un personnage totalement autonome par rapport à l'auteur.
On ne connaît pas votre vie de couple.
Non, voilà, ma vie privée, moi je la garde privée, mais Maximilien a une vie assez particulière aussi, vous le verrez dans le roman pour les
Oui.
curieux, dans la vie privée. Et évidemment, que ça c'est quelque chose de très personnel pour Maximilien, j'ai absolument pas voulu calquer cette vie-là par rapport à la mienne, sinon je sortirais de mon rôle.
Êtes-vous dans l'écriture d'un nouveau roman? Et si oui, où nous emmènerez-vous et quel genre littéraire allez-vous explorer?
J'ai plusieurs pistes. Effectivement, j'aimerais faire publier un autre roman. Je prends le temps. Je prends le temps notamment de la réception de ce roman, qui aura une seconde vie très intéressante, vu l'état actuel de notre société, vu la violence sociale, économique et politique qui existe aujourd'hui, malheureusement, dans notre société. Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais je crois que ce roman, effectivement, aura une seconde vie qui sera probablement plus que pertinente. Ensuite, dans le registre du futur roman, je veux peut-être m'écarter du roman d'anticipation. Je suis voilà assez intéressé par d'autres genres. J'en dis pas forcément plus parce que je suis dans l'élaboration, dans l'écriture et je prends le temps. Je ne veux pas faire un livre pour faire un livre. Je veux défendre les livres de tout mon poids et de tout mon cœur. Pour moi, c'est comme une sorte de bébé, un livre, et c'est pour cela que je veux le défendre corps et âme. Le nouveau projet qui arrivera sera idem, de la même manière, défendu avec la même force et vigueur. Donc voilà, je prends le temps, je veux faire quelque chose que j'apprécie vraiment et je ne veux pas me lancer dans la précipitation dans l'écriture d'un roman simplement pour le faire publier et le vendre et le proposer au lecteur.
Depuis le début de l'émission, on parle beaucoup d'écriture, on parle très peu de lecture. Vous êtes quel genre de lecteur?
Je lis un peu de tout. Mon livre préféré, par exemple, c'est L'étranger de Camus. Vous voyez, donc c'est assez loin de la dystopie. Pour moi, l'absurdité de la vie racontée par le personnage principal qui s'appelle Meursault, qui est sans filtre, c'est fascinant et c'est écrit d'une manière tellement originale, piquante. C'est-à-dire que Camus a osé quand même écrire quasiment un livre en ne faisant que sujet, verbe, complément. Et avec une force qui, moi, m'a vraiment plu. Donc voilà, ça fait partie de mes inspirations aussi, Albert Camus. Je lis un peu de tout. Je lis. Alors, peu de romans noirs, mais je me mets un peu sur tous les styles de lecture. J'aime aussi beaucoup l'histoire, donc je lis énormément de livres sur l'histoire. La Révolution française, par exemple, me passionne, mais aussi toutes les périodes de l'histoire française, Napoléon, Napoléon III, évidemment l'histoire contemporaine. J'apprécie aussi énormément l'écriture de Gaulle, par exemple. C'est fascinant, ces mémoires, c'est quelque chose qui devrait être pratiquement enseigné dès le lycée, parce que c'est aussi une culture particulière. Stefan Zweig, donc il a une sensibilité aussi particulière, touchante, émouvante. Romain Gary également. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment un univers qui est assez éclectique et divers.
Bien, tout à l'heure nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces dans la région proche. Bastien, quel est votre dernier coup de cœur littéraire?
Mon dernier coup de cœur littéraire, ce n'est pas forcément un roman moderne, ce serait Charles Péguy, Notre jeunesse, puisqu'il évoque en fait la mystique républicaine, c'est-à-dire comment un politique qui est un adorateur de la République peut être dans la compromission et chercher le carriérisme et renoncer à toutes ses valeurs. Et Charles Péguy a écrit avec une certaine force ce livre qui est peut-être l'un de ses principaux récits sur l'histoire contemporaine. Il est lui-même l'auteur qui a été à un moment donné monarchiste et puis ensuite un amoureux de la République. Donc Charles Péguy, je recommande Notre jeunesse.
Côté proposition de la quinzaine, notons le roman de Renaud Leblon, Les âmes combattantes, aux éditions L'Archipel, le polar de Charlotte Le Tourneur, Dans leurs yeux, aux éditions Fleuve Noir, le roman de Claude-Alain Arnaud, Monsieur Mouche, aux éditions Le Dilettante, le thriller d'Ingrid Glovacki, La Notaire, aux éditions Albin Michel, le roman de Serena Giuliano, Volare, aux éditions Calman Levy, le polar de Fabiano Massimi, Le Pacte de Venise, aux éditions Albin Michel, le roman de Marie-Aude Mériguet, Les Pas de côté, aux éditions Charleston, le thriller de Thomas Bronek, Toute la fortune du monde, aux éditions Gallimard, le roman de Sheila Armstrong, Échoué sur le rivage, aux éditions Albin Michel, le polar de Hergé et Lori, Les Invisibles, aux éditions Sonatine, le roman de Sophie Coste, Chérie, aux éditions Fayard, le livre de Julia Enders, Organique, aux éditions Albin Michel, le polar de J.R. Dos Santos, Le Sixième Sens, aux éditions Hervé Chopin, le roman de Karen Ponte, Il faudrait leur dire, aux éditions Fleuve Noir, le polar de Jean-Luc Banalek, Meurtre sur l'île d'Ouessant, aux éditions Presse de la Cité, le roman de David Peace, Munix, aux éditions Payot et Rivage, le polar de Bernard Minier, Rupture, aux éditions XO, le roman de Michel Bussy, Que la mort nous frôle, aux éditions Presse de la Cité, le thriller de Paul Cleave, Le poids du sang, aux éditions HarperCollins Noir, et le roman d'Isabelle Picard, Yawenda, aux éditions De Paysages. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces, Bastien, avez-vous des rencontres et séances de dédicaces dans la région proche à annoncer ?
Non, c'est en cours, mais je n'ai pas de date. Elles sont surtout en Île-de-France, puisque je réside en Île-de-France. Donc si vous êtes du côté de Sartrouville, dans les Yvelines, je vous invite à la FNAC cet été et aussi à Cultura.
Du côté des séances de dédicaces dans la région proche, le samedi 16 mai à la FNAC à Bourg-en-Bresse, Aurore Brevet, à la salle de la Grenette à Moirans-en-Montagne, le salon Noir Brume, de 10h à 18h. Les autrices et auteurs présents, Estelle Tarot, Christophe Royer, Lynn Dubier, Renaud Brunet, Marie-Hélène Branciard, Jacques Maurice, Pauline Salvi, Patrick Mallet, Gaël Perrin-Guillet, Sébastien Thévenis, Anna Scott Avacrol, Isabelle de Saulve, Didier Fosset, Sébastien Julien et Louise Le Rouge. La marraine est Estelle Tarot, Christophe Royer est l'invité d'honneur. Et on terminera les séances dédicaces le mercredi 20 mai 2026 à la bibliothèque de la Croix-Rousse à Lyon, le festival Littérature Live avec Bénédicte Dupré de 14h à 16h. Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Bastien Gouli, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare. Rappelons que votre premier roman, Décadence, est paru le 31 octobre 2024 aux éditions L'Armatan et dans la collection Miroir du Réel. On peut se procurer dans toutes les bonnes librairies ?
Dans les meilleures librairies, je dirais même. Oui. Et même en ligne et aussi dans des structures comme Fnac, Cultura, voilà.
On peut suivre votre actualité via les inévitables réseaux sociaux ?
Exactement, je suis présent sur Facebook, YouTube, X ou encore Instagram un petit peu. Voilà, donc LinkedIn aussi, évidemment.
La prochaine invitée de Roman de Gare, le jeudi 21 mai 2026, sera Cécile Baudin. Elle présentera son quatrième roman, Deuil de sel, paru le 19 mars 2026 aux éditions Presse de la Cité. Bastien, bonne chance pour la suite de vos aventures d'auteur et d'écrivain.
Merci pour votre invitation.
Mais c'est un plaisir. Bonne écriture, bonne séance de dédicace et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre